Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 22 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le pont de la Sénégambie a été inauguré hier par les présidents de la Gambie et du Sénégal.
La prestation de serment du président élu de la RDC pourrait être reportée à jeudi.
Au Nigeria, 4 soldats ont été tués au cours du week-end dans une série d'attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays.
Le président Donald Trump a qualifié lundi de grands patriotes les centaines de milliers de fonctionnaires travaillant et qui sont affectés par la fermeture partielle du gouvernement fédéral.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Les présidents du Sénégal et de la Gambie, Macky Sall et Adama Barrow, ont inauguré hier le pont de la Sénégambie qui favorisera les échanges en Afrique de l'Ouest et dont l'achèvement après des décennies d'atermoiements symbolise l'entente retrouvée entre les deux pays. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le pont, un élégant ouvrage de béton clair de plus d'un kilomètre situé en territoire gambien, enjambe le fleuve Gambie à une dizaine de kilomètres du poste frontière de Farafeni que les deux présidents, vêtus d'un boubou blanc, ont symboliquement emprunté lundi debout dans la même limousine à toit ouvrant. Étant donné la géographie de la Gambie et du Sénégal, avec un fleuve coupant chacun des deux pays en deux parties, on se demande pourquoi il a fallu tant de temps pour avoir ce pont, s'est interrogé M. Barrow lors d'une cérémonie au pied d'une nouvelle ouvrage dont la construction avait débuté en 2015 sous Yahya Jammeh. Nous pouvons être fiers d'avoir transformé en réalité ce rêve de plusieurs générations, a abondé M. Sall, alors que le projet de pont évoqué depuis les années 1970 a connu des fluctuations au gré de l'évolution des rapports entre Dakar et Banjul. Le pont va faciliter l'interconnexion des réseaux routiers, réduire les temps de trajet et contribuer à l'intégration de la sous-région, a souligné le président sénégalais. Le pont va également permettre le désenclavement de la Casamance, région touristique et agricole, dont le développement a été freiné par son isolement géographique du reste du Sénégal et par une rébellion indépendantiste vieille de plus de 35 ans, aujourd'hui en sommeil.
L'opposant congolais Martin Fayulu avait toujours toutes les peines du monde hier à mobiliser ses partisans avant la prestation de serment du président déclaré élu Félix Tshisekedi. Cette cérémonie, initialement prévue ce mardi dans le calendrier de la commission électorale, devrait être repoussée à jeudi selon Lydie Omanga, porte-parole de la coalition d'opposition CAP pour le changement de M. Tshisekedi. Ce serait pour se donner le temps de lancer les invitations aux chefs d'État africains et aux chancelleries. Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila, a été un peu moins affirmatif, expliquant à l'AFP qu'il subsiste encore quelques hésitations.
Monsieur Fayulu a tenté dans la matinée d'hier de rassembler ses troupes dans les rues de Kinshasa devant le siège de son parti et de ses alliés du mouvement de libération du Congo, le MLC. Au total, une cinquantaine de militants ont manifesté, très encadrés par la police anti-émeute. Plus tard, des heurts ont brièvement éclaté entre près de 300 partisans de Martin Fayulu et des conducteurs de mototaxis qu'ils assimilent à des proches de Félix Tshisekedi. Un homme a été grièvement blessé à la tête par un jet de pierre avant que la police ne s'interpose.
Un ex-député gabonais arrêté en août 2016 est en détention illégale en raison de l'absence de procès depuis plus de 2 ans, estime l'ONG Action des chrétiens pour l'abolition de la torture dans un communiqué publié hier. La détention depuis 28 mois de Bertrand Zibi Abégué est aujourd'hui clairement illégal, estime l'ONG. Les activistes gabonais et l'opposition mentionnent régulièrement le nom de M. Zibi parmi ceux qu'il identifie comme prisonniers politiques. Le pouvoir a toujours démenti cette formule.
Au Nigeria, 4 soldats ont été tués au cours du week-end dans une série d'attaques de Boko Haram dans le nord-est du pays. Un drame qui arrive au moment où l'armée se félicitait d'avoir repoussé les djihadistes. Des détails avec Irénée Herman Ungbo.
L'armée affirme dans un communiqué avoir réussi à vaincre les terroristes de Boko Haram qui tentaient dimanche d'attaquer une base militaire à Bouniadi dans l'état de Yobe. Deux sources militaires sous couvert d'anonymat ont toutefois déclaré à l'AFP que 4 soldats avaient également été tués à Bouniadi au cours des combats intenses avec le recours à un soutien aérien contre les insurgés. Samedi, selon le communiqué officiel, des soldats ont infligé des pertes très importantes en hommes et en équipement au groupe tuant anciens combattants dans la région de Baga, dans l'état de Borno, sur les rives du lac Tchad. La situation dans le nord-est du pays est alarmante, avec des dizaines, voire des centaines de soldats tués au cours des derniers mois par le groupe djihadiste, alors que le pays se prépare à voter pour élire un nouveau président le 16 février.
Et ajoutons toujours au Nigeria qu'une bouscule lors d'un meeting du président Muhammadu Buhari en lice pour sa réélection a fait plusieurs blessés mais aucun mort à Maiduguri, ville au cœur de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. C'est ce qu'a annoncé hier soir la présidence nigériane qui dans un premier temps avait fait état de plusieurs morts mais est ensuite revenue sur sa déclaration.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a promis hier que, a promis aujourd'hui même que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre après la répression meurtrière des manifestations contre la hausse des prix des carburants la semaine dernière. Il est rentré au pays, a annoncé aujourd'hui la télévision d'État, après qu'il a écourté une tournée internationale en raison de ces manifestations. Les violences ou les mauvais comportements de nos forces de sécurité sont inacceptables, le chaos et l'insubordination ne seront pas tolérés, les fautes feront l'objet d'une enquête s'il le faut, des têtes tomberont, a assuré M. Mnangagwa sur Twitter.
Au Mozambique, un journaliste arrêté au début du mois dans la province septentrionale du Cabo Delgado, en proie depuis un an à une violente insurrection islamiste, a été formellement inculpé d'espionnage, a-t-on appris hier auprès de l'Institut des médias d'Afrique australe. Ahmad Aboubakar, qui travaille pour une radio de la région, avait été interpellé le 5 janvier par la police alors qu'il interrogeait les habitants d'un village attaqué par des islamistes. Selon l'ONG, le procureur a avancé que le confrère recueillait des informations pour les envoyer aux djihadistes dans la mesure où il avait été trouvé en possession de noms et de contacts de djihadistes recherchés par la police. Mais ce n'est pas suffisant pour tirer une telle conclusion, a souligné l'Organisation de défense de la presse.
En Libye, des milices rivales qui s'affrontent depuis mercredi dans la banlieue de Tripoli ont accepté un accord de cessez-le-feu, ont annoncé hier soir des médiateurs. Ces affrontements ont fait au moins 16 morts et 65 blessés, selon un bilan du ministère de la Santé, arrêté samedi soir. Un accord similaire avait déjà été conclu en septembre sous l'égide de l'ONU après des affrontements qui avaient fait au moins 117 morts et plus de 400 blessés entre fin août et début septembre.
Le président soudanais Omar al-Béchir devrait se rendre aujourd'hui au Qatar, ce qui serait son premier déplacement à l'étranger depuis le début du mouvement de contestation au Soudan, a indiqué hier l'agence de presse qatari. Il doit rencontrer dès demain à Doha l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, selon la même source. En plein marasme économique, le Soudan est secoué depuis le 19 décembre par un mouvement de contestation déclenché par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Quasi quotidienne, les manifestations se sont vite transformées en contestation du pouvoir d'Omar al-Béchir, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Donald Trump a qualifié lundi de grands patriotes les centaines de milliers de fonctionnaires travaillant et qui sont affectés par la fermeture partielle du gouvernement fédéral. Toutefois, les efforts en vue de mettre fin à cette situation sont toujours dans l'impasse. Précision de Lionel Gahima.
Le chef de l'exécutif américain a réitéré lundi son appel à construire un mur le long de la frontière mexicaine. Nous devons travailler ensemble après des décennies d'abus pour résoudre la crise humanitaire, criminelle et narcotique à notre frontière. Nous gagnerons gros, a-t-il notamment tweeté. La fermeture partielle du gouvernement fédéral prive environ 800 000 fonctionnaires fédéraux de salaire. Le président Trump, qui réclame 5,7 milliards de dollars pour son mur, a proposé samedi ce qu'il a présenté comme un compromis. 3 années de protection pour des centaines de milliers de jeunes amenés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs, protection similaire pour des ressortissants latino-américains et africains ayant fui des violences ou des catastrophes naturelles dans leur pays. Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, compte soumettre ce projet au vote avec très peu de chances de soutien des démocrates. Ces derniers exigent la réouverture du gouvernement avant toute négociation.
En Syrie, un kamikaze a ciblé hier un convoi des forces américaines et de leurs alliés kurdes. Cet attentat intervient moins d'une semaine après une attaque meurtrière, également revendiquée par l'organisation État islamique, contre une patrouille américaine à Minbej. Selon le colonel américain Sean Ryan, il n'y a pas eu de victimes parmi les membres de la coalition combattant les djihadistes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce, lui, que 5 combattants des forces démocratiques syriennes ont été tués dans cette attaque. Le président Donald Trump a annoncé en décembre son intention de retirer les troupes américaines de Syrie. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'Ouganda ordonne l'arrêt de la délivrance ou du renouvellement des licences pour les sociétés proposant des jeux d'argent dans les très populaires paris sportifs. Les autorités ougandaises pensent que ces jeux ont des effets négatifs sur les jeunes, malgré des actions de sensibilisation auprès du public au sujet des paris irresponsables. Les opérateurs estiment que la directive gouvernementale est non seulement une surprise, mais aussi un choc et qu'elle menace leurs investissements. L'Égypte envisage de moderniser ses raffineries de pétrole à un coût d'environ 9 milliards de dollars sur 4 ans afin de porter sa production nationale à 41 millions de tonnes par an. Le pays compte actuellement 8 raffineries d'une capacité de 38 millions de tonnes, dont 25 millions seulement sont utilisées. Terminons avec la Chine qui a allégé une partie de la dette camerounaise d'un montant de 45 milliards de francs CFA qui représente des prêts concessionnels, c'est-à-dire des fonds issus du gouvernement chinois via ses organismes publics. La dette non concessionnelle, évaluée à plus de 3 000 milliards de francs CFA, n'est pas concernée par l'accord. Tout domaine confondu, la dette du Cameroun auprès de la Chine s'élève à 3 500 milliards de francs CFA.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît la composition des groupes pour la phase de poule de la Coupe CAF.
Oui, la CAF a procédé au tirage au sort et toutes les 4 poules promettent des rencontres alléchantes. Le groupe A ressemble à un mini-championnat du Maroc avec toutes les 3 équipes du Royaume ensemble, Hassania Agadir, Renaissance Berkane et le tenant du titre, le Raja Casablanca, aux côtés de l'AS Otoud. Les clubs tunisiens de l'Étoile du Sahel et du CS Sfaxien se retrouvent aussi dans le groupe B avec Salitas du Burkina Faso et les Nigériens de Nungu. On aura droit à un autre derby dans le groupe C avec les 2 clubs zambiens, Dezesco et Nkana. Asante Kotoko et Hilal Ondjourman devront jouer les troubles faites. Enfin, Gor Mahia, USND, Petro Atlético et Zamalek composent le groupe D. Les premiers matchs débuteront le week-end du 1er février.
Kevin Prince Boateng, prêté à Barcelone.
Et oui, l'attaquant ghanéen a été prêté au FC Barcelone par le club italien de Sassuolo. Le prêt du joueur s'accompagne d'une option d'achat de 8 millions d'euros, précise dans un communiqué le club leader de la Liga. Ancien joueur du Tottenham, de l'AC Milan et de Schalke 04, Kevin Prince Boateng connaît le championnat d'Espagne puisqu'il a joué une saison sous les couleurs de Las Palmas en 2016-2017. Pour sa part, parti se relancer du côté d'Aston Villa en championship en Angleterre donc, Yannick Bolasier ne terminera pas la saison avec les Villans. Auteur de 2 buts et de 5 passes décisives en 21 matchs, dont seulement 9 titularisations, l'international congolais a activé une option qui lui a permis d'interrompre son prêt de manière anticipée pour entrer à Everton.
L'AC Milan reprend la 4e place de la Serie A.
De fait mercredi par la Juventus Turin en Supercoupe et fragilisé par le probable départ de Gonzalo Higuain, l'AC Milan a bien réagi hier en allant battre le Genoa 2-0 lors de la 20e journée. Les Milanais reprennent ainsi cette 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, très disputée et incertaine. Au début de cette 20e journée, elle était occupée par la Lazio Rome, puis elle est passée à l'AS Rome pour finir dans les mains de Milan.
Cyclisme, la 2e étape de la tropicale Amissa Bongo se court aujourd'hui.
Oui, Drissa, mais déjà hier, 90 coureurs ont pris le départ de cette tropicale 2019. Le tenant du trophée, on le rappelle, est le Rwandais Joseph Areruya. Lors de la première étape longue de 100 km, donc courue hier, je le disais, entre Bongoville et Mwanda, c'est un Italien Nicolo Bonifazio qui a endossé le premier maillot jaune arraché au sprint massif. Temps mis 2h43min23s. Au classement général, Bonifazio devance de 2 secondes l'Érythréen Sirak Tesfom. Le Rwandais Didier Munyaneza est monté sur le podium à 3 secondes du leader. NBA, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Oklahoma City et New York, 127-109. Chicago et Cleveland, 104-88. Washington et Détroit, 101-87. Milwaukee et Dallas, 116-106. Orlando et Atlanta, 122-103. Brooklyn et Sacramento, 123-94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Christophe Dabiré a été nommé ce lundi en remplacement de Paul Kaba-Tieba, qui a démissionné avec son cabinet vendredi. M. Dabiré est un économiste qui a été plusieurs fois ministre de Blaise Compaoré, le président déchu. Écoutez au micro de Bagassi Koura l'appréciation de Siaka Koulibaly, analyste politique à Ouagadougou.
Christophe Dabiré présente un profil de technocrate qui a longtemps servi sous Blaise Compaoré en tant que ministre par deux fois, mais aussi en tant que député. Il a même été président de la commission finance de l'Assemblée nationale et il a aussi un aspect donc de fonctionnaire international parce qu'il a terminé comme commissaire à l'UEMOA. Donc dans cette configuration, il présente plutôt l'image d'un technocrate qui n'a pas vraiment un ancrage dans le parti au pouvoir à l'heure actuelle.
Est-ce que c'est ce profil qui est exigé en ce moment-là qu'il faut pour la situation du Burkina qui fait face à des problèmes de sécurité?
Le profil de Christophe Dabiré, c'est l'un des deux que le président du Faso avait, c'est-à-dire de choisir un poids lourd de la politique nationale ou de choisir un technocrate également de haut vol qui, au moins, s'il n'arrive pas à régler donc les contradictions politiques, il peut au moins, dans le management de l'État et des questions de développement, être de l'apport. À défaut d'être donc un monstre politique, il peut au moins servir en tant que technicien pour amener l'orthodoxie du fonctionnement de l'État.
Et il y a aussi la restauration même de l'autorité de l'État qui a été bafouée ces dernières années.
Mais je ne pense pas que le Premier ministre actuel soit d'une grande utilité à ce niveau. Parce que comme vous le savez, il a déjà 70 ans, il a la retraite depuis quand même un certain temps. Et il a toujours présenté l'image d'un homme affable, humble, qui ne casse pas les lignes. Donc je ne pense pas qu'il puisse être utile dans cette optique de ramener l'autorité de l'État, notamment par la rigueur.
Et comment est-ce que sa nomination a été accueillie?
De façon mitigée. Vous savez que le peuple burkinabé à l'heure actuelle est quasiment abasourdi par la tournure que prennent les choses, notamment sur le plan sécuritaire, de sorte que les gens restent assez sceptiques de savoir si le président premier ministre pourra renverser les choses, parce qu'il faudrait presque un magicien pour renverser donc la tendance actuelle.
Et son grand chantier, c'est bien la sécurité?
Oui, en priorité, c'est la sécurité, c'est-à-dire au moins ramener les unités de défense et les unités de sécurité au travail, parce qu'on a dû comprendre que jusque-là, ces acteurs n'étaient pas vraiment à la tâche, pour diverses raisons, des problèmes d'équipement, des problèmes de formation, des problèmes de collaboration entre les différents services. Donc il y a un aspect du management même qui posait problème. Peut-être que le Premier ministre va trouver l'homme qu'il faut, là où il faut, pour au moins se rétablir l'ordre à ce niveau-là.
Joint à Ouagadougou, l'analyste politique Siaka Koulibaly.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La Côte d'Ivoire planche sérieusement depuis 2015 sur les comportements sexuels de sa jeunesse, exposés aux MST et IST ainsi qu'aux grossesses précoces et non désirées. Lors des États généraux de la jeunesse à Abidjan, les jeunes ont eu l'occasion de s'informer, en particulier auprès du panel intitulé « Les comportements sexuels à risque chez les jeunes, comment protéger leur vie et leur avenir ». L'éducation sexuelle est encore un sujet tabou qu'il faut absolument briser, souligne la psychopédagogue et panéliste Berthe Odile Pohan, jointe par Nathalie Barge.
On sait que les jeunes sont face aujourd'hui à une sexualité à risque. On pense que c'est l'ignorance. Ils rentrent dans une sexualité sans avoir une éducation sexuelle de base. Alors que s'ils sont l'avenir de demain, il faut qu'on ait une jeunesse saine dans sa pratique sexuelle pour éviter toutes ces maladies.
On parle beaucoup de grossesse de jeunes filles qui sont à l'école. Est-ce que donc il y a eu des discussions faites avec les enseignants et en tout cas une manière de trouver des moyens pour éviter cela?
Ici, on a plus de 4000 grossesses en milieu scolaire. Mais surtout là, on était face à des jeunes. Aujourd'hui, ce qui est récurrent, c'est la pilule du lendemain. Mais ce que les jeunes là ne comprennent pas, c'est qu'on peut vouloir éviter une grossesse, mais en même temps avoir le sida et toute autre pandémie, parce qu'on ne s'est pas préservé. On ne se préserve pas seulement pour ne pas tomber enceinte, mais on se préserve aussi contre beaucoup d'autres maladies transmissibles sexuellement. Donc c'était important de révéler cela et surtout de montrer qu'un jeune qui fait un enfant, alors que lui-même on n'a pas fini son éducation, c'est comme si on disait un enfant fait un enfant. Et les conséquences sont multiples sur la vie de la personne, la mortalité, parce que quand on est jeune, et les médecins qui étaient là l'ont prouvé qu'il y a beaucoup de problèmes à l'accouchement, le taux de mortalité de la mère et de l'enfant, et au niveau même psychologique, le traumatisme. Quand vous n'êtes pas prêt à accueillir une grossesse chez la jeune fille, vous voulez avorter, elle sent que c'est perdu, et vous avez le rejet de la famille. Donc, on a parlé aux jeunes gens, aux jeunes élèves qui étaient là.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit justement, en particulier ces jeunes? Que retenez-vous de leurs questions, de leurs réflexions sur ce sujet?
Les jeunes ont compris que, comme nous avions d'abord dit, le sujet de la sexualité est un sujet tabou. Parents, enfants, dans la communication, cela est pratiquement inexistant. Et donc, les jeunes ont proposé qu'on pouvait, si les parents étaient gênés de parler de sexualité avec leurs enfants, on pouvait utiliser ces jeunes gens pour aller dans les domiciles ou aller ailleurs pour parler des jeunes comme ça se fait déjà. Ils ont des forums, tout ça, peut-être pas à domicile. Mais ils ont compris que la communication sur la sexualité responsable est un élément important. Ils ont demandé également qu'on puisse mettre à disposition des méthodes contraceptives gratuites, ce qu'on fait, mais que cela soit vraiment bien expliqué. Parce que c'est une période où la maturité sexuelle arrive. Donc, ils ont plus axé le fait sur la communication, la formation et l'éducation sexuelle à apporter aux jeunes. On a l'impression qu'on pense qu'on connaît la sexualité, comme les parents pensent qu'éduquer c'est facile. Mais non, il faut pouvoir expliquer.
Jointe à Abidjan, la psychopédagogue Berthe Odile Pohan.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Une start-up pour valoriser les déchets plastiques, l'idée fait son chemin dans plusieurs pays africains, y compris au Gabon. Allons à Libreville, à la découverte d'une PME de deux jeunes étudiants qui expérimentent la fabrication des pavés à base, justement, de déchets plastiques. C'est un reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
La valorisation des détritus qui encombrent les grands centres urbains en Afrique a désormais un visage à Libreville. Priscilla et Paul, deux jeunes étudiants gabonais, à la tête d'une start-up, s'essayent à la fabrication des pavés à partir des déchets en plastique.
C'est quelque chose qu'on peut faire avec peu de moyens. Il suffit qu'on ait quelques matériaux. On n'a pas besoin de grosses machines de 50 millions et tout. Donc en ayant ces moules, ces fûts, on peut faire des pavés et trouver des clients sur place au Gabon.
Immersion en atelier, pas de grosses machines en effet, juste un tamis pour le sable, la cuve pour fondre les bouteilles plastiques et le moule pour sortir les pavés. Priscilla et Paul ont appris tout le processus de montage des pavés sur Internet.
Après le tamisage du sable, on vient à la cuve où on essaie de fondre du plastique. Dès que ce serait déjà liquide, nous allons ajouter le sable tamisé et nous allons le remuer afin que la matière puisse être homogène. Et lorsqu'elle finit par être homogène, on la met dans le moule. Maintenant, ici nous avons le gasoil mélangé à l'huile de palme. En fait, ce liquide, c'est pour lubrifier le moule, afin que la pâte ne puisse pas couler le moule et que le pavé sorte intégralement.
Pas grand monde à l'usine pour développer le projet. En seulement 5 mois, la start-up est supportée par 3 bénévoles. Ils fabriquent en moyenne 300 pavés par jour. Priscilla croit à la qualité de leurs produits.
Ce pavé est plus résistant à la pression. Il a une durée de 500 ans. Donc on voit que c'est un produit qui est là, qui peut substituer à l'autre pavé, avoir le même rôle et être plus dur et moins coûteux.
Depuis 2016, l'État gabonais a mis en place un espace de promotion de petites et moyennes entreprises. La start-up de Priscilla et Paul y est éligible. C'est un cadre d'échange B2B avec pour ambition de faire éclore toutes les initiatives d'entreprise, qu'elles soient nouvelles ou déjà matures. Libreville, Ismaël Obianzé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les Américains ont commémoré hier la journée Martin Luther King, 51 ans après l'assassinat du célèbre leader du mouvement des droits civiques. L'Amérique a fait assurément de grands progrès sur les questions raciales, mais de profondes divisions subsistent. Timothée Denagma s'est entretenu à ce sujet avec le professeur Souleymane Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York.
C'est une situation véritablement contrastée parce qu'effectivement, il y a des manifestations de ce racisme contre lequel le docteur Martin Luther King s'est battu toute sa vie, à quoi il a consacré toute son énergie et toute sa vie. Mais par ailleurs, il ne faut pas ignorer effectivement des progrès qui ont été accomplis. La meilleure image d'ailleurs des progrès qui ont été accomplis, c'est probablement une photographie du Parlement actuel, de la Chambre des représentants aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de Chambre des représentants aussi diverses. Pour vous manifester le caractère contrasté de la situation, cette diversité, malheureusement, ne se manifeste que d'un côté. Ce sont les démocrates qui ont un maximum de femmes, qui ont les élus les plus divers, des natives américaines, des noirs, évidemment, mais également 2 femmes musulmanes. Dans la chambre précédente, il y avait un congressman musulman qui avait fait la une des journaux parce qu'il avait voulu prêter serment sur le Coran. Cette fois-ci, il y en a 2. Voilà donc une image, je crois, de l'Amérique qui correspond davantage à ce qui a été le rêve du docteur Martin Luther King.
Au plan politique, des progrès effectifs donc, mais au plan économique, il y a encore des efforts à faire.
Sur le plan économique, effectivement, il y a des efforts à faire parce que les inégalités n'ont jamais été aussi criantes. Et malheureusement, quand on parle d'inégalités, il faut bien se rendre compte que les classes défavorisées sont également les classes les plus brunes, on va dire. C'est-à-dire, ce sont des classes qui, pour la plupart d'ailleurs, appartiennent à ces minorités raciales.
Le docteur Martin Luther King s'était rendu à l'indépendance du Ghana en mars 1957. Quelle est la portée de son message aujourd'hui pour l'Afrique?
Alors, il faut effectivement rappeler cela, qu'en 1957, le docteur Martin Luther King s'était rendu au Ghana. Et donc, il est nécessaire de le rappeler pour rappeler que de part et d'autre de l'Atlantique, il y a un combat commun qui est mené, qui est un combat pour simplement l'affirmation de l'humanité et l'affirmation de l'égalité. Cela est important pour l'Afrique de se rendre compte que le combat qui est mené partout pour la liberté, pour l'émancipation et pour l'égalité est un combat qui intéresse également les Africains. Donc, la leçon de Martin Luther King est une leçon universelle qui est une leçon également pour les Africains aujourd'hui.
Le professeur Souleymane Bachir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Ce Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. En appelant au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.